Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi.
Bienvenue à vous tous et toutes dans ce cinquième épisode d'Explore. Nous voilà pour cet épisode de retour en terre vaudoise, avec cette fois un projet qui, on peut dire, en regroupe plusieurs sous son toit, ou en tout cas regroupe plusieurs dynamiques sous son toit. C'est un lieu, si on veut être précis, on parle d'un lieu. Nous sommes au Jardin d'hiver, et ici il faut entendre le jeu de mots, si je ne me trompe pas, d'hiver comme diversité et diversifié, et pas là où on met des plantes vertes, pour qu'elles croissent en hiver aussi. Donc c'est un centre où se croisent art, spiritualité et solidarité. Et aujourd'hui, je suis avec une artiste dans l'âme d'un côté et une tricoteuse contemplative, on s'est mis d'accord là-dessus, de l'autre. Je suis avec donc Monica Bovier. Salut Monica.
Hello.
Qui est diacre suffragante au Jardin d'hiver. Et tu es aussi engagée dans la pastorale de la rue, si je dis ça, c'est juste.
Exactement.
Et puis avec Liliane Ruda. Salut Liliane.
Bonjour à toutes et tous.
Toi, tu es diacre. Moi, ce que j'ai situé... Bon, je sais que tu es sur beaucoup de projets en même temps, mais engagé au niveau de la solidarité pour le canton, dans le conseil présence et solidarité au niveau du canton, et aussi ici, à Jardin d'hiver. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait qu'on mentionne de ce que tu fais, Liliane?
Non, c'est bien comme ça.
OK. Vous êtes les deux... Vous n'êtes pas les seuls, bien sûr, évidemment, à être engagés dans le Jardin d'hiver, mais je vous ai identifié un peu quand même comme les moteurs, en tout cas du côté de l'Église réformée, pour ce qui se passe ici. Alors d'ailleurs, ici, qu'est-ce que c'est ici, l'endroit où on est, juste rapidement, s'il fallait décrire ce bâtiment pour ceux qui ne le voient pas, enfin on est à l'audio, quoi. Qui veut se risquer à ce jeu?
Ben, en fait, on est à Tivoli, donc on est en plein centre bétonné. Et le centre paroissial date des années 60, donc c'est un centre pur béton. Et nous avons choisi de l'appeler jardin d'hiver parce que nous avons la conviction que même au milieu du béton, la vie, elle continue à pousser et à prendre ses quartiers.
Avec les quelques bandes de terre et de plantes qui restent ici dans le coin de Sèblin. Et toi, comment tu le décrirais, Monica ?
Il y en a, hein, des verdures. On oublie de les voir, en fait. Il faudra défricher, on veut faire un jardin punk, notamment avec un sentier méditatif juste devant toi. Alors, ici.
On voit vraiment autour du bâtiment, il doit y avoir une bande de terre avec encore de la verdure, et puis, mais je pense quoi, 3-5 mètres de largeur, la bande
ouais,
de terre.
Ouais, pas plus, ça fait un peu abandonné,
ouais,
mais
pour
on aimerait
l'instant.
Donner la vie à la place ici. Et puis par rapport au béton, on a aussi toujours cette idée de dire qu'on ne veut jamais rien figer dans le béton.
Okay, ouais.
Donc au niveau de l'idée de ce qu'on veut construire, de construire avec les gens, mais aussi de pas s'arrêter « Ah, c'est bon, c'est le modèle parfait, on a trouvé, c'est comme ça ». Non, aujourd'hui, c'est bon peut-être, mais demain, ce sera autre chose.
Mm-hmm. C'est un béton souple qu'il faut peut-être encore inventer, mais
oui.
Vous y travaillez.
Oui, mais on a vu aussi des fleurs qui poussent à travers le béton, ça s'est déjà vu, et c'est cette force-là de la nature qui vient... plus fort vers le soleil, vers la vie.
Ça, on est autour du bâtiment. Peut-être juste pour dire, le bâtiment en tant que tel, il y a un espèce de centre où il y a plusieurs salles, qui fait un peu, moi j'aurais dit centre communautaire, comme ça, je suis pas trop faux si je dis ça.
C'est un centre paroissial,
ouais.
Donc on a un temple, une très grande salle et plusieurs plus petites salles.
Ouais, et puis ça communique entre le temple d'une part, qui est un temple, disons normal des années 60, quoi, en béton, et qui donne directement sur une des grandes salles. Enfin, ça communique entre les deux, quoi.
Oui, il y a une porte coulissante.
Ouais.
Et c'est quelque chose qu'on aime faire aussi. C'est la salle principale avec des canapés qui est aménagée comme un salon pour que les personnes puissent se sentir comme chez elles. Et l'idée, c'est de pouvoir coulisser cette porte et de donner la place à la spiritualité dans la vie quotidienne. De pas mettre de frontières.
Avec Monica, on est convaincus que la spiritualité est un lieu qu'on visite pas seulement le dimanche matin entre 10h et 11h, mais que cette spiritualité, elle est au cœur de nos vies, donc on aime le signifier. Et c'est vrai que les personnes qui nous font l'amitié de venir dans notre centre profitent de cette opportunité pour aller des fois se recueillir un moment dans le temple, pour avoir un moment plus calme. Donc aussi, pour les personnes, le temple fait maintenant pleinement partie des endroits qu'elles peuvent investir.
Et puis, justement, quand tu parles de spiritualité au cœur de la vie, le bâtiment lui-même est vraiment situé sur un carrefour, si on veut bien. Bon, c'est un carrefour essentiellement routier, je sais pas. Bah si, il y a quand même pas mal de bâtiments dans le coin, il y a pas mal de gens qui passent, c'est pas très piéton.
Enfin, parce qu'on a un arrêt métro en face. C'est juste, de l'autre métro, côté de l'avenue de Provence, il y a un arrêt métro. Et en fait, sur l'esplanade qui est devant le bâtiment, il y a toutes les personnes qui quittent le métro et qui viennent dans le quartier, qui passent. Et c'est vrai qu'en été, nos accueils, on les fait dehors. On installe la terrasse dehors. Et c'est aussi l'occasion pour les personnes qui sont juste passantes d'arrêter un petit moment vers nous.
Tu voulais dire,
oui, c'est vrai, souvent ils regardent, genre, mais c'est quoi? On n'a jamais vu. Les gens sont curieux. Et ça donne une fenêtre aussi supplémentaire sur l'extérieur, dans la vie quotidienne des gens, d'une autre manière aussi.
Et puis peut-être une particularité du bâtiment que je voulais encore souligner, c'est que le clocher n'est pas lié au bâtiment. C'est une espèce de tour complètement indépendante. Si on connaît un peu le quartier à Lausanne, on reconnaît très bien. Enfin, je trouve que c'est très distinctif. Je ne sais pas s'il y a des choses à dire sur le clocher indépendant.
Alors c'était donc juste pour dire que le centre provincial était construit pour l'exposition nationale de 64 de Lausanne, et que c'était ce côté très, enfin ça fait très industriel comme bâtiment, était vraiment voulu dans ce contexte-là. Et à ce moment-là, il y a d'autres temples comme Saint-Jacques qui ont aussi leur clocher qui était construit à côté. Donc apparemment, il y avait un petit trend moment-là de construire de cette manière-là.
Oui, parce qu'on l'a pas, j'ai pas encore mentionné le nom, mais on a au temple de Sévelin en fait, qui fait partie ou faisait partie de la paroisse. Maintenant, j'ai plus le nom de la paroisse.
C'est du sud-ouest lausannois.
Du sud-ouest lausannois, qui doit être une fusion de plein de paroisses de l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait une paroisse de Sévelin quand le temple a été construit, sûrement.
C'est encore écrit sur le temple, paroisse de Sévelin, sur la plaquette en bois.
Ça,
ouais.
Donc, mais c'est justement, ça fait partie de l'histoire du lieu que là, il y a eu un décrochage de la paroisse pour qu'ils vivent autre chose. Mais on va y arriver. Mais peut-être allons-y. Allons-y comme ça, parce que le jardin d'hiver est un projet maintenant qui tourne depuis une année, hein. Monica t'a dit, bon, ça se pense depuis un petit peu plus.
Oui. On a inauguré le 7 février de l'année passée.
Avec déjà pas mal d'activités, si on regarde un peu la presse réformée. Enfin, on a vu qu'il y a deux, trois choses qui se sont faites. Mais j'ai envie de te citer, Liliane, en mars 2022. Tu as été interviewé, et puis au sujet du jardin d'hiver qui n'était pas encore en place, mais il y avait l'idée qui grandissait. Et puis tu disais, mon rêve serait de faire de Sévelin un énorme salon avec différents recoins cosy, un endroit pour boire un verre, un autre pour lire ou faire de la couture ou des jeux et réunir des personnes de différentes générations. Je vois cet endroit aussi chaleureux qu'une maison et ouvert à l'expérimentation. Que celles et ceux qui viennent puissent s'approprier ce lieu et ne pas être seuls. Voilà ce que tu disais en mars 2022. Quel chemin depuis ?
Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était mon rêve, parce que Monica était encore pas moyennement dans la course.
Tu étais encore en stage en mars 2022, je crois, Monica.
Ça fait quoi ? Une année et demie que je suis là. Donc, j'ai fini quoi ? Ouais, j'ai fini en 2022.
Ouais, je pense, dans l'été 2022.
L'été 2022, avant, du coup.
Et en fait, ce qui nous importe beaucoup, c'est de bâtir les rêves aussi des personnes qui sont accueillies ici. Mmh. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de citer qui ont pu se mettre en place. Effectivement, on a notre grand salon avec les différents coins, les accueils qui peuvent se faire. Et puis, on va plus loin maintenant. Il y a des bacs de permaculture qui nous ont été installés, qu'on va pouvoir commencer à cultiver. Et on a eu un magnifique moment avec les accueillis en automne où on a rêvé à ces bacs de permaculture. Qu'est-ce qu'on allait y planter? Parce qu'en automne, on pouvait pas faire trop de plantations. Et notamment, les personnes avaient très envie de planter des fraisiers. Et je voyais plusieurs personnes qui sentaient déjà le goût de la fraise. Et pour des personnes en grande précarité qui vivent souvent très dans l'ici et maintenant, de pouvoir se projeter est un élément important. Souvent, leur vie privée ne permet pas forcément de le faire. Donc ici, c'est un endroit où nous aidons vraiment les personnes qui sont là à réaliser leurs rêves. Et tu veux peut-être raconter le dernier?
Oui, c'est une personne qui vit dans la rue actuellement et qui nous a partagé son désir de faire du sport dans une salle de sport, mais n'ayant pas les moyens de pouvoir se payer un abonnement au fitness. Et le hasard, avec un grand D comme on dit parfois, a fait qu'on a reçu un sac de boxe d'une personne qui nous donne souvent des choses. Et on s'est dit, on va l'installer et on va ouvrir une salle de sport. Donc là, actuellement, on est en recherche justement de vélos, de tapis de course, etc. pour compléter cette salle. Alors là, le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas de douche.
Ouais.
Mais déjà de savoir qu'il y avait ça et que c'est une idée qui vient d'une personne qui vient ici, d'un bénéficiaire, c'est une énorme victoire. Et j'ai vu les étoiles dans les yeux des gens en se disant « Ah ouais, c'est vrai, il va y avoir une salle de sport, trop bien !» Donc c'est aussi beau quand ça vient des personnes directement.
Ça veut aussi dire qu'ils vivent avec... Ça, c'est pas que votre projet, quoi. Ça vit aussi toutes celles et ceux qui viennent et qui circulent dans ces lieux. Et je note que, en tout cas, le sac de boxe ne faisait pas partie de la liste que tu disais en mars 2022. Donc, ça évolue. Et peut-être, si on remonte maintenant encore un tout petit peu en amont, parce que dans cet article de mars 2022, c'était déjà acquis qu'il y avait apparemment le temple de Sévelin qui allait être disponible pour ce projet, Jardin d'hiver. Qu'est-ce qu'il y avait en amont de ça, en termes de réflexion, de mûrissement, du coup, de ton côté, Liliane?
Alors, en fait, le tout départ était une demande du conseil synodal adressée au conseil cantonal Santé et Solidarité de trouver un lieu pour préparer des mises en refuge de personnes déboutées de l'asile. Et donc, il y a eu ce mandat, et puis il y a eu une visite un peu des lieux possibles au niveau du canton, qu'on pouvait transformer et puis avoir un accueil qui permettait aussi une mise en refuge, et pour ça, il fallait un clocher.
Et en fait, tu peux pas faire de mise en refuge sans clocher?
Alors si, tu peux, en fait, parce que c'est une légende urbaine que de penser que la police n'a pas le droit d'aller chercher des personnes mises en asile
dans un temple.
Le canton de Vaud le permet, mais il y aura quand même une résistance.
Symboliquement, ça fait quelque chose.
Ouais. Et donc, le centre paroissial de Sévelin, déjà en 2017, a été repéré comme un endroit possible pour ce projet, qui a beaucoup stagné, parce qu'en fait, on voulait faire, dans le bar où on est maintenant à faire cette interview, on voulait transformer cette partie en chambre, et puis en fait faire un endroit avec une vingtaine de lits. Après, s'il s'avérait que c'était pas possible pour différentes raisons, mais la paroisse du sud-ouest lausannois a, dans ce contexte-là, de la maison, enfin, déjà de cette réflexion sur une maison de la diaconie, voté la mise à disposition du bâtiment pour un projet de maison de la diaconie. Le problème était que le bâtiment était très vieux, en mauvais état, et c'était exclu de faire de l'accueil pour des personnes en précarité dans un endroit qui n'était pas adapté.
Qui ne respecte pas certaines normes, j'imagine.
Ouais. Les normes, mais aussi rien que l'aspect, en fait.
D'accord.
Parce que le beau attire le beau, et accueillir des personnes en précarité dans un endroit sale, moche et qui pue, c'est pas terrible, en fait. Et la ville, elle a pris...
Moi, je n'ai pas été accueilli dans un endroit, en tout cas, sale, moche et qui pue, donc il y a eu du travail entre deux, apparemment.
Voilà, c'est ça. La ville, en fait, elle a dans son tournus régulier de la rénovation des lieux d'église, fait les rénovations nécessaires, ce qui nous a permis de démarrer le projet, en fait.
Et puis, du coup, toi, tu avais la vision du projet, un peu la perspective, ou tu l'as porté, tu as fait un fil rouge, là, depuis un certain temps. Et Monica, pour toi, ça s'est passé comment, au moment où, j'imagine, tu finis ton stage, tu réfléchis à, OK, qu'est-ce que je vais faire dans l'église pour la suite? Évidemment, comme tout le monde, je vais aller en paroisse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là de transition, quoi, qui t'a mis sur les voies du jardin d'hiver?
Alors, pour moi, c'était déjà une évidence que je voulais pas être en paroisse. Je cherchais un lieu d'aumônerie. À la base, c'est vrai que j'ai un cœur pour l'aumônerie de rue. Et puis, Jardin d'hiver, c'est un projet qu'on m'a proposé aussi à ce moment-là, en me disant, tu peux rêver avec nous. Liliane a pu partager là où elle en était, puis elle m'a dit, comment est-ce que tu verrais, pour compléter ça, quels sont tes rêves à toi pour pouvoir tisser ce projet-là ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a ce noyau dur de qu'est-ce que nous on rêve avant d'amener les rêves des autres. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je lui ai dit, un des premiers trucs que je lui ai dit, c'est moi mon rêve c'est de travailler avec mon chien, d'être un peu dans la ligne zoothérapie, créateur de liens, etc. Et puis à ce moment-là, Liliane ne m'a pas dit tout de suite qu'elle avait un petit peu peur des chiens, c'est juste.
Oui.
Et du coup, moi, je suis arrivée là avec mes grands projets, et elle les a accueillis tels qu'ils étaient. Donc, c'était ça, les chiens, et c'était l'art et la spiritualité.
Dans la salle où on est, justement, on voit qu'il y a des, ah, comment on appelle ça, des toiles,
des chevalets,
des toiles. Il y a déjà quelques peintures au mur. Je ne sais pas si c'est des originaux, si je pense.
C'est des copies. Mais ça fait partie d'une expo. On fait à peu près 2-3 fois par année des expos.
Ouais.
Pour permettre aux personnes qui sont pas forcément connues ou qui le sont déjà de pouvoir partager leur travail, et puis aux personnes qui viennent de pouvoir avoir un accès à la culture. Mmh. C'est aussi quelque chose qui se fait pas de soi. Il y a des personnes, elles se sentent pas forcément dignes de pouvoir avoir accès à ce genre de prestations. Et puis ici, on est dans la salle, elle s'appelle la Galerie des Glaces. Mais c'est une salle artistique qui était à la base prévue pour faire des ateliers de peinture et autres. Mmh. Et justement, on s'est rendu compte au fur et à mesure, au stade où on en est maintenant, c'est que les personnes, elles n'ont pas forcément envie de descendre du lieu d'accueil qui est en haut pour pouvoir venir faire une activité à part.
Oui.
Donc, pour l'instant, on essaye plutôt de voir comment on peut débloquer les choses en haut.
Ouais.
Par exemple, il y a une personne qui était venue en disant « Ah, mais moi, j'adore faire des perles, je suis un spécialiste des perles, etc. Je peux faire des colliers et montrer aux gens. » Donc, il a commencé à faire son petit atelier pendant les accueils et ça n'a pas forcément super bien démarré.
Et du coup, il le faisait en haut ou en bas? Parce qu'il faut se dire qu'il y a vraiment... Ah, ok, donc il y a la grande salle en haut où ça communique, on voit un peu ce qui se passe.
Ouais, c'est
et
ça.
En bas, il faut quand même vouloir descendre c'est et ça. Rentrer dans les salles, quoi.
Mais c'est du pas coup, c'est cool parce que chacun est libre de pouvoir soit juste boire un café ou bien tout d'un coup, ils vont jouer au baby-foot, lancer des fléchettes ou aller faire un atelier de perles. Mais par contre, ce qu'il a proposé aussi, c'est de faire du cuir.
Ouais.
C'est aussi un spécialiste du cuir.
Okay.
Il faisait les revêtements dans les voitures. Et là, il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience cet atelier.
Ouais.
Donc, on est un peu à tâtons avec comment ça se construit.
Puis c'est aussi avec les gens qui viennent avec leur talent, avec leur
proposition. Ouais. Exactement.
Je lisais dans un article, je sais pas si ça doit être plus tard, des ateliers d'écriture. Enfin, il y a un article qui thématisait ça et justement, ça s'est un peu réorienté à la suite des rencontres. Donc ouais, ça bouge quoi. Enfin, c'est souple aussi, non, ce qui est proposé sur un moment donné.
Oui, oui. Surtout qu'on a le lundi une assistante sociale qu'on a pu engager grâce à Fondia.
Et Fondia, qui est un fonds de soutien aux activités diaconales pour les églises réformées.
De l'IRS.
Ouais, de l'église réformée suisse.
Oui, et puis elle est écrivaine, elle fait des ateliers d'écriture aussi. Ben, c'est comme ça qu'on s'est recroisés, parce que je la connaissais déjà à l'époque. Et puis pendant mon stage, on avait fait des ateliers d'écriture à la prison de Lenay sur la thématique de la liberté. Et du coup, ça s'est recoupé que quand on cherchait quelqu'un pour renforcer notre équipe, on s'est dit, mais Marie-Lou, quoi, c'est juste évident.
Et voilà, donc là on voit un peu votre arrivée, ce qui grandit à partir de cette arrivée. Peut-être pour on entend déjà un petit peu des éclats de ce qui se passe dans le bâtiment, de ce qui s'y vit. Peut-être ça vaudrait la peine qu'on passe sur une journée type, et qu'on regarde aussi après la semaine qu'est-ce qu'il y a au fil des semaines qui se passe dans ce lieu. Mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'une journée type ici dans ce bâtiment à Sèvlin, au jardin d'hiver?
Alors, ce qui est sûr, dans une journée type, il y aura toujours beaucoup de surprises. Donc ça fait vraiment partie de la base, qu'il y aura toujours des imprévus à gérer.
On a déjà ce matin, quand je suis arrivée, il y avait des imprévus.
Voilà, ça c'est habituel, c'est vrai que quand on essaie d'être présente pour des personnes en difficulté, bien sûr qu'il y a des horaires, alors nous on se tient aux horaires d'accueil, mais il y a toujours des choses qui se passent en dehors de ces moments-là. Donc à part la boutade... Le matin, c'est en général assez calme. Nous, on utilise parfois l'endroit pour des séances, pour des entretiens. À partir de 11h, il y a l'installation qui se fait dans la salle pour un accueil d'enfants pour le midi. Ça s'est organisé donc par le parascolaire.
De toute la semaine, du coup, j'imagine.
Sauf le mercredi, oui.
Sauf le mercredi. Oui, c'est juste, ils ont congé.
C'est 48 gamins, pas des moindres.
Ouais.
Donc ça occupe les lieux jusqu'en début d'après-midi. Et à partir de 2h30, il y a nos bénévoles qui arrivent pour préparer l'accueil qui se fait les lundis.
Ah, attends, maintenant ça a changé. On a un nouveau truc pour le lundi. C'est à 14h, on a un temps de spiritualité. On fait les offices de jardin d'hiver dans le temple. Et ça, c'est aussi des bénévoles qui ont co-construit la liturgie. Voilà. Donc, il y a ce passage où on fait cet accueil, enfin cet office, et après, on ouvre la paroi, et les bénévoles vont préparer l'accueil.
Ah, trop bien. OK. Donc, c'est aussi important. Comment on rentre aussi dans ce moment? C'est aussi pour eux, j'imagine.
Et pour nous aussi.
Et pour vous,
bien sûr. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de cette bulle de spiritualité.
Ouais.
Parce que tout grouille, on est tout le temps dans l'urgence, et on a aussi ce sentiment des fois que les difficultés arrivent plus vite que ce qu'on a eu le temps de les gérer. Alors c'est important de pouvoir se poser.
J'imagine ça fait aussi une bulle pour accueillir ce qui a pu se passer le matin d'imprévu, selon si vous étiez là. Mais ok, donc on a ce temps de spiritualité à 14h. Ensuite, l'accueil qui s'ouvre.
Depuis 15h jusqu'à 18h30.
Okay.
Et puis pendant cet accueil, c'est à la fois des personnes qui ont besoin d'un endroit pour se poser, les gens du voisinage, toute personne qui a envie de venir boire quelque chose, prendre un moment de discussion. Et le lundi, la particularité, effectivement, c'est qu'il y a un temps de conseil social par une assistante sociale qui est présente.
Et puis du coup, durant ces temps d'accueil, j'imagine des personnes... Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir des personnes qui peuvent proposer des ateliers, enfin quand on parlait des perles, quand on parlait éventuellement d'un atelier d'écriture ou des choses comme ça.
Oui, c'est ça exactement. Qu'il y a des jeux qui s'organisent. C'est aussi pourquoi un moment de discussion qui est précieux, où les personnes peuvent s'exprimer sur des questions qui les habitent. Parfois, c'est un peu dynamique, il faut aussi faire un peu de la modération.
Je peux imaginer selon les thèmes qui sont abordés et les gens qui se croisent.
Et puis, en fin de journée, il y a différents groupes. On a actuellement, je ne sais plus, une petite dizaine de groupes à qui on prête les locaux. Mm-hmm. Donc, c'est important de dire qu'ici, tout est sur l'esprit de gratuité. Donc, nous, on a la chance que la ville nous met à disposition le bâtiment, y compris l'électricité, l'eau et tout ça. Et que nous, on a à cœur de partager, du coup, avec des groupes ou des personnes qui ont besoin de l'endroit. Et que cet accueil se fait aussi dans cette gratuité. On engage les groupes à s'investir dans la vie de la maison.
Mmh.
Donc, des fois, on les sollicite pour un transport ou quand on veut repeindre le mobilier de jardin. On fait des moments de travaux en commun. Et puis aussi des moments où on se réunit ensemble.
Bah justement, les tables qui sont là, elles ont été repeintes par une association qui s'appelle Les Peuples du Simplon.
D'accord.
Donc aussi des personnes qui sont en lien avec la grande précarité, la rue.
D'accord,
qui nous ont offert ce service.
Ok. Et qui justement, eux, auront un créneau durant la semaine, le soir où ils seront ici.
Alors, c'est le week-end, mais c'est le week-end, voilà, c'est dans le même ordre d'idée. Alors, c'est vrai que c'est assez varié, en fait, hein, les groupes qui viennent. On a un groupe pour jeunes LGBTI, on a des tentes rouges pour les femmes, on a une permanence au pré-rom qui est spécifiquement un temps de conseil pour les personnes roms. Ah. On a une sexologue qui consulte ici, on a un groupe de jeunes plutôt évangéliques. Et puis, il y a la pastorale de la rue qui fait son accueil ici le dimanche et qui fait ensuite la célébration dans le temple parce que autrement l'accueil est ailleurs, mais il n'y a pas de proximité avec un lieu de culte.
D'accord.
Ouais. Ouais, on a aussi la communauté chinoise qui fait pour la spiritualité, puis on a Open Source Church.
Oui, qui a son local ici.
Ils sont juste deux pièces plus loin.
Ouais.
Ils ont rénové, enfin ils sont encore en train de rénover le local sous forme de taverne, donc ils sont en train de creuser la pierre. C'est juste magnifique.
L'endroit. Ah, mais ils sont vraiment en train de creuser la pierre.
Alors c'est pas de la vraie pierre, mais ça fait un
okay,
effet.
Ok, ouais, ça fait pierre. Ok. Ouais.
Bon, ils sont dans l'abri anti-atomique, donc ils pourraient créer creuser
dans le béton.
Ah oui, on est dans le béton ici.
Ouais, ouais. Et puis, parce que pour moi, ça c'est quelque chose qui n'était pas tout à fait clair. Peut-être tu l'as déjà dit, le bâtiment appartient à la ville de Lausanne.
Oui.
Ok, ouais.
L'ensemble, donc le temple et le centre paroissial,
ouais.
Et on a une convention
avec
qui nous le met à disposition. Ouais. Peut-être quelque chose qu'on n'a encore pas mentionné, toute la question de la transition écologique et sociale nous tient beaucoup à cœur, aussi sur le volet écologique. Alors on est moins dans les discours et beaucoup plus dans le faire, pratiquement.
Mm-hmm.
Donc nous avons jamais de la vaisselle jetable, nous faisons attention à notre manière de consommer. Et puis aussi, justement, à l'extérieur, de favoriser la biodiversité. Donc, en fait, notre idée, c'est aussi de casser les silos. Parce qu'au fond, les personnes en précarité nous disent, la culture, c'est pas pour nous. L'écologie, c'est pas pour nous. On n'a pas les moyens d'être écolo.
Ouais.
Et au fond, avec nos actions, avec nos ateliers aussi, nous cherchons à montrer qu'on peut être écolo sans que ça coûte cher, en faisant attention à notre consommation. Et il y en a aussi la Maraude qui s'est installée chez nous, qui est une association qui va allons à la rencontre des personnes qui vivent vraiment dans la rue, qui ne vont même pas dans les abris d'urgence, mais qui vivent dans la rue aussi parfois pour des raisons de santé psychique.
Ouais, ouais.
Et en fait, ils ont ici un stock d'habits, ils cuisinent. Et nous, on peut aussi du coup bénéficier du stock d'habits quand on a des personnes qui sont dans le besoin. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interactions. Et l'idée, c'est d'enlever un maximum de silos et de permettre l'accès. Pour nous, la culture, c'est aussi nourrissant quelque part que de manger un sandwich. Ça fait aussi partie des besoins. Donc, de faciliter tous ces accès.
Puis je me pose la question comme ça, effectivement, de la perspective que je ne viens pas ici en payant, en achetant mon droit de séjour, entre guillemets, mais que j'y viens en, d'une part en étant accueilli par vous, par les autres usagers, et puis que ça implique que je m'engage un peu dans la maison. Enfin, c'est intéressant parce que on connaît beaucoup de centres paroissiaux qui sont loués pour des activités, mais du coup, il n'y a pas forcément de synergie ou d'interaction qui se font. Enfin, je sais pas, moi, il me semble, je sais que dans la paroisse où tu as fait ton stage, Monica, il y a un de ces centres paroissiaux, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'interaction entre la paroisse et ceux qui louent le lieu.
Non,
de souvenir.
Pas à ma connaissance non plus.
Donc voilà, c'est un peu l'image que j'ai. Et puis là du coup, vous racontez un peu autre chose, j'ai l'impression.
En fait, l'idée, c'est de faire communauté ensemble.
Ouais.
En fait. Et puis aussi, alors on est en train d'encore le mettre au point, c'est d'avoir une liste des activités des uns, des unes et des autres qui sont ouvertes.
Ouais.
Donc quand Open Source Church fait une soirée ciné-église, l'idée, c'est que tout le monde le sache. Et que ceux qui ont envie d'y participer le peuvent. On avait un jeune du groupe, de jeunes plutôt évangéliques qui était en questionnement par rapport à son identité sexuelle et affective. Ben, il a pu être accueilli dans le groupe LGBTI. Donc, on cherche vraiment de faire communauté. Et puis, pas juste cohabiter et de se dire bonjour poliment quand on se croise.
Moi, je trouvais aussi très beau, l'empêche, dans l'échange de services par rapport à la salle qu'on a mis à disposition, ben justement, à la paroisse du Sud-Ouest lausannois, et d'autres personnes aussi, pour créer le spectacle Exode Vert, qui sort
cette semaine. Hein.
Ouais. Et
On est en mars, là. On est en mars,
On est le 18 mars.
On est le 18 mars. L'épisode sortira, on devrait être, j'imagine, près de l'été, quand ça sortira.
Ouais. Et puis mercredi, ils font une avant-première au terreau exclusivement pour les personnes de Jardin d'hiver.
Ok, ouais.
Donc ça, c'est aussi incroyable de se dire, mais ils sont mis en premier, en fait, avant tout le monde, et c'est pas souvent le cas.
Ouais.
Donc ça, c'est très beau. En dehors des groupes aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a un espace de coworking en-dessus du temple, à la galerie d'orgue.
Okay.
On a mis quelques ordinateurs à disposition qui ont aussi été justement par un autre groupe qui nous a procuré les ordinateurs. Et puis, les personnes ont la possibilité de pouvoir aller sur Internet, de pouvoir faire un CV si elles en ont envie.
Et ça, ouais, j'allais dire, ça, je pense surtout dans les milieux précarisés, c'est important de pouvoir avoir ces accès.
Oui.
Enfin, autrement, c'est à nouveau, c'est toujours payant, quoi. Donc,
C'est ça, c'est ça.
Ouais.
Et puis, pas seulement aussi des fois des familles qui ont des logements assez petits ou quelqu'un doit faire du télétravail, c'est pas forcément évident d'avoir un endroit calme.
Oui.
Puis là, c'est vrai que comme cet endroit en plus est dans le temple, c'est incroyable. Il y a comme ça une atmosphère vraiment très aidante à la concentration. Et puis c'est aussi, c'est vrai que ça c'est nos particularités de réformer, c'est qu'au fond, dans un temple, on peut vivre aussi d'autres choses que le culte, des moments de recueillement.
Ah, le lieu n'est pas sacré en tant que tel. Donc,
Et ça, c'est aussi génial parce que c'est aussi une source de discussion. Parce que ça reprend beaucoup de personnes.
Oui.
Et puis après, ça nous permet aussi de raconter quelque chose de notre manière d'habiter notre foi.
Je voulais rebondir sur... là, on a évoqué toutes ces associations, toutes ces activités qui se font ici, qui collaborent au lieu. Vous avez... Je suis pas sûr encore de comprendre la nuance avec les bénévoles. Enfin, parce qu'au fond, voilà, les gens qui s'engagent ici... Donc, vous avez un groupe de bénévoles. Si j'ai bien compris, c'est... À un moment donné, j'avais lu le chiffre d'une quinzaine de personnes. C'est juste... Est-ce que c'est encore le cas?
C'est toujours en mouvance, on va
ouais,
dire.
Ouais, mais... j'imagine la disponibilité des gens.
Mais ouais, je pense depuis le début, on a eu une quinzaine de personnes. Alors, y en a qui s'engagent de manière ponctuelle, une fois de temps en temps, et puis d'autres, ils viennent tous les...
Très réguliers.
Mercredi matin, enfin, la première tranche, parce qu'on sépare ça en deux tranches, parce que ça peut faire un peu beaucoup, sinon. Les personnes peuvent choisir si elles font la première tranche, la deuxième tranche, ou les deux.
Donc les tranches du temps d'accueil.
Ouais, les tranches du temps d'accueil. Et souvent, les bénévoles sont aussi des bénéficiaires.
Ouais, ouais.
Ce qui crée de la proximité aussi dans les liens avec les personnes, parce qu'ils se connaissent déjà très bien. Mais après, il peut y avoir aussi des inconvénients.
Puis vous, ça marche comment pour vous? C'est des gens que vous avez un point de rendez-vous avec ces personnes, ou c'est juste vous, entre vous deux, vous répartissez d'être en lien avec, individuellement avec eux? Comment ça s'organise?
Mais en fait, on est en gouvernance partagée, donc tout ce qui concerne la question des bénévoles, c'est plutôt mon domaine.
Oui.
Donc, comment on les trouve, les bénévoles, ça a été beaucoup par le réseau de Liliane au début, des gens qui sont aussi déjà bénévoles à la pastorale de la rue à Lausanne.
Oui.
Et puis, on a mis aussi des annonces sur Bénévole à vous, Bénévole Job, .ch. Et après, c'est du bouche à oreille ou des gens du quartier aussi qui viennent en tant que bénéficiaires. Puis tout d'un coup, je peux aussi donner un coup de main.
Mais tu as une... Je vois bien... Du coup, je vois d'où viennent les bénévoles. Et je vois que certains, j'imagine, peuvent se connaître entre eux. Mais l'organisation avec eux, tu dis, prend comment? Pour j'imagine, s'il faut des plages horaires pour savoir quand ils viennent, avoir le contact, savoir comment ils vont aussi.
Ouais. Bah pour les inscriptions, on a un Google Docs où on inscrit les tranches, donc on sait qu'ils s'inscrivent. Et puis sinon, ils savent qu'ils ont la possibilité de pouvoir nous rencontrer s'ils ont besoin d'aide, etc. Mais on se voit à peu près deux fois par année pour un peu débriefer. Là, on est en train de regarder pour mettre sur pied aussi des cours sur la gestion de la violence et la communication non violente. Et ça, c'est aussi beaucoup co-construit avec leurs besoins. Je leur demande souvent, au début, ils ont un entretien et ils peuvent dire aussi leurs rêves. Et on a ce temps d'échange qui est important et où on montre qu'il y a ce soin qui est là aussi de la personne. Et il y a une charte du bénévole avec un cahier des charges qui se construit aussi au fil du temps, avec la construction et la forme que ça prend, en fait.
Et du coup, c'est assez... Enfin, je trouve assez léger comme structure. Puis j'imagine que ça permet aussi un engagement facilité, quoi.
Et un désengagement aussi.
Potentiel. Oui. J'imagine que ça... D'où la fluidité personnes engagées, quoi.
Ouais. Après, ce qui est super, Monica, elle est très sensible, là, aussi à discerner les qualités ou les compétences particulières des personnes.
Oui.
On a par exemple un des bénévoles, c'est un super bricoleur. Et à chaque fois qu'on a un souci pratique, on peut lui demander de nous le réparer. Puis il est archi doué. Pour ça, où on a une bénévole que c'est vraiment l'écoute. Et puis elle vient pour se mettre à disposition spécialement pour des personnes qui ont besoin d'un entretien un peu plus approfondi.
Donc, prof de français aussi.
Une prof de français.
Ça aussi, c'est assez nouveau.
Bah, mais je pense que ça répond à un réel besoin. Alors là, pour le coup, tant pour l'écrit que l'oral, j'imagine, selon qui vient.
Ouais, en plus, on a des tableaux noirs qu'on a récupérés d'une école. Ils se débarrassaient de leurs tableaux.
Je pense qu'on arrive à se faire gentiment un peu une idée de ce qui se vit. Je sais aussi qu'il y a des grands rendez-vous durant l'année. Voilà, donc il y a le rythme de la semaine, de la journée, de la semaine, mais l'année a aussi un peu ses points marquants. L'année dernière, il y avait un festival en septembre. Qu'est-ce qui se profile pour une année comme 2024? Si se profile des choses, je ne sais pas si vous en êtes déjà,
Là. Nous avons un petit peu dû calmer nos enthousiasmes. Ouais. Bon, ce qui se profile quand même, Monica va passer ses examens de consécration et être consacrée. Donc c'était juste aussi de un petit peu lever le pied pour laisser un tout petit peu d'espace pour ça. Et on a malheureusement eu des problèmes techniques avec le bâtiment. Donc une interdiction d'organiser des événements.
D'accord, ouais.
Parce qu'habituellement, on avait qu'un de nos parents avec qui on organise des concerts qu'on a dû annuler. Donc habituellement, l'idée, ce serait d'avoir deux concerts dans l'année. Donc là, on a vraiment plus rien programmé en attendant d'avoir la confirmation que tout soit mis aux normes, normalement, de lutte contre l'incendie.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Mais les envies ne manquent pas. Le mini-festi, on se disait qu'on le ferait peut-être plutôt à un rythme de tous les deux ans.
Ouais.
Parce que on était un tout petit peu dépassés par les événements quand même. Et voilà. important qu'on attend d'avoir les mises aux normes.
Mais il y a cette idée d'avoir des points de rendez-vous, la musique qui jouerait un rôle. Le système de parrainage, c'est vrai que je l'avais perçu au moment, au début du lancement de Jardin d'hiver, et puis, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des gens qui ont soutenu financièrement le projet?
C'est pas un soutien financier, c'est plutôt un soutien de cœur.
Ouais.
On s'est entouré de quatre parrains marraines. Moi, justement, Liliane parlait de Cortez Musique. Donc, c'est là aussi une association chrétienne qui promouvoit les talents artistiques dans le chant, au niveau chrétien, mais aussi autres. Et ça donne la possibilité aux personnes de pouvoir avoir accès à la scène. C'est un peu la même démarche que finalement les expos.
Oui.
C'est de se faire connaître, d'oser monter sur scène, d'expérimenter ça, et ça peut être un potentiel tremplin parce qu'ils ont aussi un studio d'enregistrement. Et puis du coup l'idée c'était qu'ils puissent venir faire leur concert ici pour faire connaître un maximum de personnes et de créer du lien aussi et de la diversité dans nos locaux. Ils ont dû aller ailleurs malheureusement avec cette histoire de bâtiment. Mais nos autres parrains, on a aussi John Dee qui est un écrivain qui est aussi très axé sur la thématique du destin, mais avec une dimension spirituelle assez jolie. Et puis on a aussi Alexandre Jolien et puis Mélanie Roulin, qui est une chanteuse aussi dans le milieu chrétien.
D'accord, ok.
Alors par exemple, au Minifesti, les quatre étaient là et nous ont offert des prestations.
Ouais.
Donc c'est plutôt dans ce sens-là qui nous aide à faire connaître le lieu et puis à offrir des moments.
Quelque part, ça permet d'élargir le réseau, mais ça fait aussi que c'est des personnalités voilà qui ont leur réseau, qui ont peut-être aussi Alexandre Jolien quand même qui a un certain rayonnement public quoi. Ok, c'est un peu ça le rôle des parrains.
Voilà, exactement, la communication.
Et puis quand même le lien, est-ce qu'ils apportent eux-mêmes aussi avec leur talent? Enfin, comme tu dis, s'ils sont après dans un mini-festi, ouais, enfin, ils participent aussi, quoi.
Oui, ouais. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai qu'on cherche aussi à accueillir ce qui vient. Ben, au mois de novembre, il y a Graine de Moutarde qui a donné une représentation théâtrale ici. Et c'était vraiment génial parce qu'on avait fait le pari que un maximum de personnes qui sont à l'accueil participent, enfin, assistent au théâtre. Et puis, ça s'est vraiment très bien marché. Parce que justement, comme les personnes sont familières du lieu, d'aller assister à une pièce de théâtre qui se tend dans le lieu, qui connaissent, ça abaisse le seuil. Puis là, ça va être l'étape suivante, d'aller avec eux au terreau.
Pour Exode.
Pour Exode, ouais. Donc c'est vraiment d'abaisser les seuils, de casser les silos.
Toujours un peu un mantra ou mot d'ordre du lieu. Slogan, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une partie que je voulais encore voir avec vous, ça concerne, alors c'est moins sexy, mais dans ces questions d'innovation ou de développement d'église, ça joue quand même un rôle. C'est votre lien, la structure d'église en général. Donc, bon, vous deux, vous êtes employés par les RV. Le bâtiment appartient à la ville, donc il y a une convention avec la ville. Mais comment on situe le jardin d'hiver dans une église réformée?
Donc on est rattaché à la région. Nous sommes donc un projet régional qui dépend du Conseil de services communautaires Présence et Solidarité de la région Lausanne et Palinges.
Ouais.
Donc nos dotations sortent de l'enveloppe régionale. Par contre, vu que nous avons un rayonnement plus large, le financement des frais de fonctionnement viennent de la dotation cantonale.
Et les frais de fonctionnement, tu comprends quoi là-dedans?
Alors c'est payer la dame de ménage, les nos fournitures diverses et variées, les imprimés quand on a des intervenants extérieurs. Voilà, c'est vraiment tout sauf nos salaires. Et c'est vrai qu'on a la chance qu'on va pas payer les charges du bâtiment. Donc c'est assez modeste, ça représente à peu près 20 000 francs par année, les frais de fonctionnement. Et ce financement mixte était intéressant parce qu'au fond, pour le canton, ça aurait été compliqué de mettre à disposition des forces RH, ce que la région pouvait faire. Et pour la région, c'était compliqué de prendre en charge les frais de fonctionnement.
Ce que le canton
canton pouvait faire plus facilement.
Ouais.
Donc, c'était vraiment une volonté conjointe de construction. Et c'est vrai que c'est tripartite entre la ville, qui reconnaît aussi l'intérêt de l'action en nous mettant à disposition le bâtiment, la région et le canton au niveau de l'ERV.
Ouais. Et puis, au niveau de collaboration avec d'autres lieux d'église, bon, Lausanne, c'est dense, hein. Il y a beaucoup de choses sur Lausanne. Mais comment, qu'est-ce qui est possible? On sait que dans les projets d'innovation, c'est la, comment on fait de la place à d'autres projets, ou comment on rentre en dynamique avec d'autres projets, c'est toujours un défi, c'est toujours une recherche aussi de savoir ce qui se passe, comment on peut le faire. Mais là, qu'est-ce qui se fait?
Alors, ce qui se fait facilement, c'est avec la pastorale de la rue, le point d'appui, la pastorale du monde du travail aussi, qui sont donc des missions exercées en commun avec l'Église catholique. Après, avec les paroisses, je dirais, on est plutôt sur un mode d'échange déjà des ressources. Donc, ils savent que nous, on existe en termes de ressources. Et puis, en tout cas, moi, ça m'arrive de solliciter des collègues en paroisse pour certains accompagnements longs. Parce que nous, des fois, on est un peu pris. Au bout d'un moment, les agendas tiennent plus trop le coup. Donc, on a aussi des ressources à ce niveau-là. Aussi en termes de célébration, quand on a des personnes qui cherchent un lieu de culte. Donc, ici, à la pastorale, le samedi soir, mais enfin, pardon, dimanche soir, mais pas le culte traditionnel du dimanche. Je crois que la région a vraiment bien accueilli l'endroit, les lieux spécialisés aussi. On a aussi harmonisé nos heures d'ouverture avec le point d'appui et la pastorale de la rue pour vraiment compléter. C'est pour ça qu'on est ouvert en fin de journée, pour faire le joint avec les lieux d'accueil d'urgence. Puis après, c'est aussi toute la question de l'insertion dans le réseau Basseuil, qui est un petit peu l'autre pied. Donc, il y a l'insertion dans le milieu d'église et l'insertion dans le réseau Basseuil. Et là, c'est intéressant de voir que les autres acteurs du réseau Basseuil, ben, ils envoient les gens ici comme vraiment un endroit d'accueil où il n'y a pas une attente, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous et puis d'avoir un besoin spécifique autre que d'avoir un endroit pour sortir de la solitude et de l'isolement, en fait.
Ok, ça donne un projet. Je ne sais pas si toi, tu as un regard là-dessus, Monica.
Bah, en tout cas, ça me fait penser qu'on a développé aussi une plateforme, un réseau pionnier. Donc, on se réunit entre les différents ministères pionniers de la région pour pouvoir se soutenir, échanger et partager aussi un espace de temps où on fait ce qu'on n'aime pas faire ensemble.
C'est-à-dire, quand tu dis ça...
Par exemple, moi, j'aime pas faire la comptabilité. Ben voilà, on se réunit, on fait ensemble. Ça rend donc la chose un peu plus agréable.
Donc vraiment très concrètement,
très
les tâches du quotidien.
Oui, et puis c'est quand même important, je trouve, de se réunir et de pouvoir partager nos défis, nos luttes, parce que il peut arriver qu'on puisse être assez isolé. Nous, on a la chance d'être deux avec Liliane, mais c'est pas le cas de tout le monde.
C'est pas le cas de tous, non. C'est aussi ça, ces projets pionniers sont souvent... enfin, là, on est... Enfin, je sais pas si là, l'image de être en avant, enfin, en tout cas, on est ailleurs sur le territoire que là où sont la majorité des personnes de nos églises. C'est vrai que le risque de la solitude est là, quoi.
Et puis peut-être ici, un double facteur, c'est aussi la diaconie. On est quand même très axé sur la diaconie. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs qui ont aussi cet axe-là, mais par rapport à la norme ecclésiale, on est aussi en décalé. En décalage
par
rapport
à ça. Oui, et il y a
ça.
Peu de lieux de diaconie qui ont repris ou se mettent dans le cadre d'une église. Alors bon, il y a un peu l'exception, c'est l'église de la Maladière, mais elle était traditionnellement habitée par la pastorale de la rue, mais c'est vrai qu'un temple, un grand centre très visible comme ça, les autres lieux de diaconie sont plutôt des bureaux, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je les identifie.
Bon, le point d'appui, c'est aussi assez grand. En fait, par contre, c'est un lieu qui était loué exprès pour.
C'est ça.
Parce que c'est un lieu œcuménique aussi.
Oui.
Tandis qu'ici, ben nous, en fait, il y a que des employés de l'ERV, même si l'accueil est évidemment sans considération
de la confession
ou la religion. On a nos voisines musulmanes qui aiment beaucoup venir chez nous et on en est très heureux et très fiers.
Peut-être qu'on va gentiment arriver au terme de notre rencontre. Peut-être en quelques mots, on va aller là-dessus. Quels sont les défis là maintenant pour l'année qui vient, les choses que vous dites, ok, là-dessus il y a du travail à faire encore et des choses qui nous challengent et puis sur lesquelles on aimerait peut-être ou qui nous font peur. Peut-être des fois c'est des choses qui nous font peur aussi, je sais pas. Mais sur des choses on sait qu'il y a de la résistance du travail encore à faire. ce que j'imagine qu'il y a, parce qu'au bout d'une année, les choses sont pas encore tout à fait en place, pas entièrement en tout cas.
Alors au niveau des beaux défis pour moi, c'est vraiment les aménagements extérieurs.
Ouais.
Et puis aussi toute la question de la biodiversité, de d'avoir ici aussi à l'extérieur un endroit qui témoigne de cet accueil de la diversité. Et on trouve que l'extérieur c'est assez génial pour pouvoir le faire. Après, peut-être sur un plan moins sexy, comme tu le disais avant, c'est comme de continuer à travailler dans la structure, aussi avec les RV, toute la question de la gouvernance. Est-ce que Jardin d'hiver sera une ecclésiole, et de qui et de comment, etc. Donc, de nous positionner aussi là-dedans. Et puis, de continuer à travailler avec la ville, avec la paroisse, pour qui c'est encore pas une évidence d'avoir abandonné les lieux. Mmh. On a encore du travail à faire avec eux. Au fond, des fois, ça nous fait un pincement au cœur, parce que pour la paroisse, c'est un petit peu une tristesse, parce qu'ils ont l'impression qu'ils avaient l'endroit quand il était moins joli, puis que maintenant c'est tout beau, c'est plus à eux. Et en fait, de vraiment plus faire comprendre encore que c'est un endroit qui rayonne de l'évangile, mais pour toutes et tous, mmh. en fait. Mmh. Et que c'est pas un exième ghetto, en fait. Mmh.
Mmh. Ça, c'est un défi que tu identifies. Je sais pas si Monica, dans ton regard.
Oui, alors, pour moi, c'est souvent, j'ai l'impression, on a tellement d'idées et ça foisonne, qu'il peut arriver qu'on oublie l'essentiel.
Mmh.
Pour moi, l'essentiel, c'est entre autres la spiritualité.
Mmh.
Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on perde pas et qu'on puisse développer, faire grandir, que ça prenne une place centrale dans ce qu'on fait. Le risque, c'est de devenir une simple maison de quartier.
Oui.
Et nous, on n'a pas envie de ça. On a vraiment envie d'avoir cette identité spirituelle ouverte, bien sûr chrétienne, mais j'ai envie de dire ouverte interreligieusement.
Mmh. Oh, c'est un christianisme, disons, qui soit pas replié sur lui-même, mais ouais. En lien avec d'autres.
Ouais, ouais.
D'autres perspectives.
Et puis, au 1er mai, on va lancer aussi la prière du cœur. Donc, mmh. ça sera aussi une nouvelle perspective de pouvoir aussi peut-être toucher les pendulaires, parce que ça se passera le mercredi à midi et quart. Mmh. Le seul moment de la semaine, dans les 5 jours, où il n'y a pas les APEMS. Donc, on profite aussi des créneaux pour avoir un peu de tranquillité, de souffle et d'espace aussi pour être avec Dieu ensemble.
Ça, c'était pour les défis et les perspectives un peu de travail de ces prochains temps. Et je vais vous laisser, on va terminer avec ce dernier tour de questions pour vous deux. Voilà, on peut être, quand on pense à comment se développe l'Église, on est des fois un peu obnubilé par une image du passé, et puis en même temps, c'est ça qu'on a expérimenté, c'est de là qu'on vient, donc ça existe aussi et c'est OK. Et en même temps, au quotidien, il y a une église qu'on découvre, qui émerge. Moi, je dis c'est une église qui arrive. C'est quoi les éléments, que dans votre expérience ici, que vous voyez émerger de cette église qui arrive, qu'on est en train de découvrir?
Combiné avec la diversité.
Ouais.
Déjà, c'est un défi en soi. Mais par rapport à l'Église à venir, moi, je vois quelques prémices dans le vivre ensemble. Parce que déjà, dans une Église traditionnelle où on a tous plus ou moins la même vision des choses, la même manière d'exprimer sa foi, etc., c'est pas forcément facile de partager. Et là, j'ai l'impression que le défi, il est encore plus grand, parce que on a des castes sociales différentes, on a des ethnies différentes, des cultures différentes. Et puis, il y a ce défi de partager ensemble et que chacun mette sa main à la pâte. Et il y a peut-être de cet ordre de revenir à ce qui était au départ, d'être assis autour d'une table et de partager un moment. Et pourquoi pas d'inclure la dimension de la spiritualité comme quelque chose de vivant et pas forcément caché dans sa chambre, en fait.
Pour moi, c'est vraiment l'enjeu de voir les différences comme une chance et pas comme une menace. Et puis, de co-construire. Maintenant, je n'aime plus dire de construire avec, mais de construire ensemble.
Mm-hmm.
Et je pense que ça demande du temps, ça demande du tâtonnement, mais quand nous construisons ensemble un projet d'église, pour moi, c'est vraiment la construction du royaume de Dieu qui se fait, dans le sens que des personnes retrouve naturellement, en fait, une place dans la société qu'elles avaient perdue. Et c'est pas nous qui la donnons, c'est le fait de construire ensemble.
Merci.
Merci à toi.
Le défi d'habiter un grand bâtiment, de le faire vivre, de croiser les groupes et les aspirations, de sonder constamment les besoins de celles et ceux qui traversent ce bâtiment, les bénéficiaires, les bénévoles. Le défi de faire se rencontrer vie associative, solidarité, art, spiritualité, évangile. Et je reste avec cette phrase de Liliane. L'enjeu, c'est de casser les silos. Jardin d'hiver, un centre qui veut vibrer de l'évangile au carrefour des vies qui traversent l'espace urbain. Pour le prochain épisode, nous resterons à Lausanne, mais en montant de quelques étages du côté du quartier de Bellevaux. Vous pourrez y rencontrer une paroisse qui a fait de l'interculturalité l'un de ses chevals de bataille. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager vos impressions et vos réflexions si cet épisode vous a intéressé. Vous pouvez aussi m'écrire directement à l'adresse helio.jaillet@evref.ch. Nous nous retrouvons à la fin de l'été. Salut !